il est 13h sur France Inter. Et Frédéric Barrère nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, 13 militaires américains tués et la menace de nouveaux attentats. L'Afghanistan et Kaboul sous le choc et l'horreur des attaques suicides d'hier devant l'aéroport. Nous serons dans un instant à l'aéroport de Kaboul avec Vincent Souriau, l'envoyé spécial de RFI où l'armée américaine rend hommage à ses soldats tués. Des milliers d'Afghans cherchent à fuir ce matin malgré les risques. Et avec Eric Biegala, nous verrons où en sont les opérations d'évacuation. La France pourrait prolonger les évacuations au-delà de ce soir. Dans l'actualité également, la compétition à droite pour la présidentielle s'accélère. 5 candidats pour l'instant et un forfait. Laurent Wauquiez a renoncé hier, une décision qui rebat les cartes à droite. Avec en embuscade le polémiste Éric Zemmour, l'épidémie de coronavirus et le variant Delta qui pourrait briser les espoirs d'une immunité collective. La vaccination seule ne suffira pas, répètent les médecins. Le Beauvau de la sécurité. Comment améliorer les relations police-population? Réunion ce matin autour de Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et puis, les Jeux Paralympiques de Tokyo. 5 nouvelles médailles aujourd'hui pour la France. La météo, très classique aujourd'hui, nuages au nord, ensoleillé au sud. Élodie Calac à la fin de ce journal.
France Inter.
L'Afghanistan et Kaboul plongés dans la terreur, le chaos et la peur après les 2 attentats suicides hier devant l'aéroport de Kaboul revendiqués par le groupe État islamique. 2 explosions et un carnage. Le bilan à la mi-journée de cette double attaque est de 90 morts, dont 13 soldats américains et plus de 160 blessés. Ce matin, à Kaboul, dans une atmosphère tendue et sous la menace de nouveaux attentats, des milliers de personnes cherchent désespérément à fuir le pays. Je vous propose d'abord de retrouver Vincent Souriau, l'envoyé spécial de RFI à Kaboul. Vincent Souriau, vous venez d'arriver à l'aéroport de Kaboul où l'armée américaine rend hommage à ces soldats tués hier dans l'attaque suicide.
Oui, sur le tarmac devant moi, il y a un C-17 de l'armée américaine, ces énormes avions de transport qui s'ouvrent par l'arrière. Le pont arrière est baissé et c'est là, au bout de cette plateforme, que des centaines de soldats américains, peut-être un millier de militaires, sont venus former un arc de cercle. Certains au garde-à-vous, d'autres les bras croisés ou les mains dans le dos pour assister à la levée de corps, pour faire un dernier adieu à leurs camarades tués hier dans les attentats. Plusieurs petits groupes se sont détachés de ce cercle au pas militaire pour venir transporter ces cercueils jusque dans l'avion. Et c'est terminé sous nos yeux, le sas se referme et ce C-17 va très vite décoller, sans doute faire étape à Doha au Qatar avant de se poser aux États-Unis.
Alors Vincent, quelle est l'atmosphère à l'aéroport au lendemain de ces attentats?
Oui, très calme, très ordonné, avec bien sûr des mesures de sécurité draconiennes, mais en dehors de ça, une activité, il me semble, assez réduite par rapport à mon arrivée sur ce tarmac il y a une petite semaine. Beaucoup moins d'appareils en action, ce qui se comprend, puisque de nombreux pays ont cessé leurs évacuations. On a vu des diplomates japonais, italiens ce matin, quelques dizaines d'Afghans aussi, mais là encore, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles que le nombre de passagers qui montaient à bord la semaine dernière. En résumé, un aéroport qui fonctionne, mais en mode dégradé, comme diraient les militaires.
Vincent Souriau, l'envoyé spécial à Kaboul de Radio France Internationale. Interview réalisée juste avant ce journal de 13h. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Frédéric.
Les États-Unis disent se préparer à d'autres attaques du groupe État islamique. Quelles informations avons-nous sur la situation sur place à la mi-journée?
Alors, la situation sécuritaire semble ce matin à Kaboul à peu près calme. C'est ce que précisait Vincent il y a quelques minutes. Mais il ne faut jurer de rien. Cette nuit, par exemple, les Afghans de la capitale signalaient sur les réseaux sociaux des échanges de tirs assez nourris dans certains quartiers ouest de la capitale, notamment ceux où les chiites Hazaras sont majoritaires. Ils sont une cible régulière des attaques de l'État islamique au Khorasan. Pour ce qui est de l'aéroport, les forces américaines disent craindre d'autres opérations et notamment une attaque à la voiture piégée qui pourrait faire encore plus de dégâts que les 2 explosions d'hier. Et puis il suffirait tout simplement de quelques tirs d'armes légères ou d'un tir de lance-roquettes anti-char sur l'un des avions pour paralyser complètement le trafic.
Alors Eric, concernant maintenant le pont aérien humanitaire, militaires vers Kaboul, la France pourrait prolonger les opérations d'évacuation. Comment cela s'organise-t-il ? Aujourd'hui, il reste peu de temps.
Oui, il y aurait encore quelques centaines d'Afghans et de ressortissants français évacués par les avions français. Normalement, deux ou trois rotations des appareils pourraient y suffire. Et donc, l'annonce d'une suspension des opérations pour ce soir demeure parfaitement plausible. Tout le problème, semble-t-il, c'est de faire arriver toutes ces personnes sur l'aéroport. Elles ne sont pas encore. Les bus qui devaient les y convoyer hier ont fait demi-tour devant les deux attentats. Les Britanniques ont annoncé avoir fermé l'hôtel Barron, là où se prépositionnaient la plupart des Afghans éligibles à l'embarquement sur les vols américains et britanniques. Là également où s'est produit le second attentat suicide hier. L'opération d'évacuation britannique se terminera d'ailleurs dans quelques heures, précisait ce matin le ministre britannique de la Défense, tandis que l'Espagne annonçait la fin de ses opérations aériennes sur Kaboul avec deux derniers vols qui ont quitté la capitale afghane dans les toutes premières heures de la matinée.
Merci Eric Bigala. Certains pays arrêtent les évacuations, d'autres, comme la France et les États-Unis, devraient poursuivre ces opérations d'évacuation. Et l'un des derniers à quitter Kaboul sera David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan. David Martinon doit regagner Paris, au moins provisoirement, comme l'a annoncé hier le président Emmanuel Macron. David Martinon opérera depuis Paris, puisque la France veut garder un ambassadeur auprès de l'Afghanistan pour les opérations humanitaires d'urgence depuis la mi-août. David Martinon est en première ligne pour gérer les évacuations des Afghans et des ressortissants français présents sur place. Valérie Creva.
C'était le 15 août dernier, jour de la prise de Kaboul par les talibans. Dans une petite vidéo sur Twitter, David Martinon apparaît, lunettes noires sur le nez, avec sa garde rapprochée dans un hélicoptère. Il quitte la zone verte, le quartier diplomatique de la capitale afghane. Direction l'aéroport de Kaboul, où la France a relocalisé son ambassade, comme les États-Unis, l'Allemagne ou les Pays-Bas. C'est de là qu'il pilote les opérations d'évacuation, dont celle d'un premier groupe de 350 Français et Afghans qui avaient trouvé refuge à l'intérieur de l'ambassade. Il faudra négocier avec les talibans pour les exfiltrer. Depuis la mi-août, les évacuations se sont enchaînées avec leur lot de difficultés. Les forces spéciales sont mises à contribution pour aller chercher des Afghans dans leur maison et les ramener à l'aéroport. L'ambassadeur sera le dernier à partir, avec les militaires français et le personnel diplomatique encore sur place. Son retour à Paris ne signifie pas que la France ferme définitivement son ambassade à Kaboul. L'Élysée n'a pour l'instant pas pris de décision ferme à ce sujet. La France reconnaît un pays, pas un régime. Il faut obtenir des garanties des talibans, a dit le chef de l'État.
Valérie Creva, pour les États-Unis, ce retrait d'Afghanistan tourne au scénario catastrophe. Le président Joe Biden, visiblement très secoué et attristé par ces attentats suicides et la mort de soldats américains, a promis cette nuit de traquer et de faire payer les auteurs de l'attaque. Joe Biden, qui est confronté à sa plus grave crise depuis son investiture en janvier dernier, voit sa cote de popularité chuter. Et cela pourrait encore s'accentuer selon Corentin Célin, professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Il est au micro de Franck Madvon.
Incontestablement, sa gestion de la chute de Kaboul et de l'évacuation a déjà eu un impact extrêmement fort sur sa cote de popularité, qui jusque-là était restée supérieure à 50% d'approbation et qui, pour la première fois à l'occasion de cette crise, a baissé en dessous de ce seuil symbolique. Et ce qui est encore plus intéressant peut-être et qui montre la difficulté pour le président Biden, c'est que si l'approbation des États-Unis pour le retrait d'Afghanistan demeure, c'est avec une marge bien moins importante qu'avant la chute de Kaboul. La présidence Biden semble avoir très mal anticipé le poids de la chute si rapide de Kaboul aux mains des talibans. Tout ceci donne une impression d'impréparation que l'on retrouve aussi dans les très fréquents retards de prise de parole de Biden lui-même.
Corentin Célin avec Franck Madvon.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
En France, la compétition à droite pour la présidentielle s'accélère. Quatre candidats déclarés pour une éventuelle primaire, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Michel Barnier. Un candidat hors primaire, Xavier Bertrand, et un forfait, Laurent Wauquiez, qui renonce, il ne sera pas candidat. Alors à droite, la photo des candidats et de la ligne de départ s'est considérablement modifiée, ce n'est sans doute pas fini. Un sixième candidat au moins pourrait se joindre à la rentrée politique à droite. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Éric Zemmour, le polémiste, est en embuscade.
Oui, Éric Zemmour, dont l'entourage s'est réjoui hier de la décision de Laurent Wauquiez, lançant aussitôt sur Twitter un hashtag « La droite avec Zemmour » et une pétition appelant appelant la direction LR à soutenir le polémiste, le seul, selon eux, à pouvoir désormais représenter la droite conservatrice et libérale. Les proches d'Éric Zemmour, qui depuis quelques semaines prêchent d'ailleurs cette parole auprès des maires, on ne leur demande pas de le soutenir, mais de parrainer quelqu'un qui a toute sa place dans le débat politique, explique Antoine Dierce, qui préside les Amis d'Éric Zemmour. À ce stade, une centaine de promesses de parrainage a selon lui été récoltées. Parmi les édiles contactés, Robert Ménard, qui lui a refusé pour son bien. Il n'est pas fait pour ça, justifie le maire de Béziers. Pas de quoi refroidir les soutiens d'Éric Zemmour, qui prépare désormais la sortie du livre programmatique du polémiste le 16 septembre, rêvant d'une tournée de promotion aux airs de début de campagne.
Élodie Faure, et merci. Et à gauche, au Parti Socialiste, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, était l'invité ce matin de France Inter. Il a confirmé que le candidat socialiste à la présidentielle sera désigné par un vote militant comme prévu par les statuts du parti. L'épidémie de coronavirus. Les informations hier étaient plutôt rassurantes ou en tout cas moins alarmantes que ce qu'on aurait pu craindre. D'abord la rentrée des classes annoncée comme la plus normale possible par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, grâce au vaccin. Peu après, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait que la circulation du virus était en nette diminution. Le pire a été évité, a-t-il dit, grâce là encore à la vaccination. Mais avec le virus et le variant Delta, les rêves et les espoirs peuvent se briser d'un jour à l'autre, au point, Sophie Bécherel, qu'il semble illusoire d'atteindre l'immunité collective.
Un Graal longtemps poursuivi, puisqu'au début de la campagne, les modélisateurs pensaient qu'en atteignant le seuil de 60% de la population vaccinée, on viendrait à bout du virus. Mais en effet, la forte contagiosité du variant Delta rebat les cartes. Avec ce variant, une personne infectée en contamine potentiellement 8 autres, deux fois plus qu'avec la souche historique. Autant dire que la vaccination n'arrive pas à suivre le rythme pour atteindre les 90% de la population adulte vaccinée, un autre chiffre évoqué par les modélisateurs à l'arrivée du Delta. Pour mémoire, aujourd'hui, nous sommes à 74% des plus de 12 ans vaccinés. Par ailleurs, face au Delta, l'efficacité des vaccins a légèrement baissé. Même avec deux doses, on peut, sans s'en rendre compte, être infecté et transmettre. La chaîne ne s'interrompt pas totalement. Mais pour ne pas atteindre l'immunité collective ne signifie pas que la bataille est perdue, car si le taux de reproduction du fameux R descend sous la barre du 1, eh bien l'épidémie est sous contrôle et elle finit par s'éteindre. Ce R, qui ne cesse de faire du yo-yo, il est aujourd'hui de 0,93. On tient le bon bout, oui, sauf que le brassage va reprendre avec la rentrée et les contacts des enfants non vaccinés, d'où la nécessité de maintenir les gestes barrières. Ils sont extrêmement efficaces, le port du masque, le lavage des mains, l'aération permanente, la distance physique. Le suivi par Santé publique France montre que ces gestes, eh bien, on a malheureusement tendance à les négliger au fil des semaines.
Sophie Bécherel, merci. On les présente comme des laboratoires du monde d'après. En tout cas, les tiers-lieux sont très en vogue depuis quelques années. Ces nouveaux espaces d'activité de coworking, ces espaces de travail partagé sur le numérique, la culture ou l'artisanat connaissent une progression exponentielle partout en France. Et ce matin, Jean Castex, le Premier ministre, est à Caen, dans le Calvados, pour visiter des tiers-lieux et soutenir leur développement. Des tiers-lieux synonymes de réussite, des créations d'entreprises, par exemple à Andernos, sur le bassin d'Arcachon. C'est en se croisant sur un de ces lieux de travail commun que quatre entrepreneurs, devenus amis, ont eu l'idée de la Raspaille, un jeu de quilles avec un dé à gage sorti cet été. Ils en fabriquent 100 unités par semaine. C'est un succès. Emeline Lefebvre, designer, elle est aussi l'une des créatrices de ce jeu. Elle répond à Delphine Evenon.
Il y a quelques années, on a créé un espace de coworking et Fab Lab avec Sandrine Favre, donc qui est mon associée. Et du fait de cet espace qui a été créé, donc sur le bassin d'Arcachon, ça a permis donc à beaucoup d'entrepreneurs de venir nous rejoindre et de travailler ensemble. C'est le principe de partager des locaux, de partager des compétences, de pouvoir interagir entre nous. C'est ce qui s'est passé. Camille et Nicolas sont venus dans l'espace de coworking pour des besoins de bureaux, pour de l'accompagnement de projets. Et puis de fil en aiguille, en échangeant, en voyant les interactions qu'on pouvait avoir et surtout les complémentarité qu'on avait, nous est venue l'idée par la suite de pouvoir développer ce projet de la Raspaille. C'est devenu un projet collectif. L'intérêt aussi des espaces de coworking, c'est vraiment la pluralité des profils. Hein. On interagit aussi bien avec des gens qui sont pas du tout dans nos domaines. Hein. On rencontre des collègues qu'on n'aurait jamais croisés en fait, et ça devient des amis. Et ce qui est le cas aujourd'hui, on est tous amis.
C'est l'un des chantiers importants du Beauvau de la sécurité. Cette grande concertation nationale sur la police s'intéresse aujourd'hui au contrôle interne des policiers et gendarmes, avec sur le grill l'IGPN et pour les gendarmes l'IGGN. Comment améliorer les relations police-population? Comment mieux répondre aux critiques et aux accusations en série sur des violences policières non sanctionnées, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes? Le Beauvau de la sécurité aborde aujourd'hui un thème très grand public et sensible. Et d'ailleurs, ce matin, Emmanuel Leclerc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est montré ferme, quitte à froisser certains participants.
Cet épisode 6 du Beauvau de la sécurité commence par la diffusion d'un entretien avec le chef de la police des polices en Angleterre.
My name is Michael Lockwood.
Qui n'est pas un policier, à la tête d'un organisme indépendant né à la suite d'une affaire de racisme au sein des forces de l'ordre en Grande-Bretagne et d'un usage illégitime de la force. On a compris durant cette matinée que c'était l'exemple à suivre pour le ministre de l'Intérieur quand il s'adresse aux deux chefs des inspections générales en France, de la police et de la gendarmerie.
Premièrement, pourquoi pas une seule inspection police et gendarmerie? Pourquoi pas auprès du ministre de l'Intérieur? Pourquoi pas un magistrat à votre place?
La patronne de l'IGPN pour la police et le chef de l'IGGN pour les gendarmes ont répondu qu'ils n'étaient pas sûr du tout que cela sera plus efficace qu'actuellement sur des affaires qui sont la plupart du temps placées sous la direction de magistrats. Gérald Darmanin s'en est pris ensuite au conseil de discipline qui se réunissent parfois des années après les faits. Les sanctions, si nécessaire, doivent être prises, dit-il, dans les 3 mois maximum après la fin des enquêtes administratives. La composition et le déroulement de ces conseils de discipline internes devront être également revus. Les conclusions du Beauvau de la sécurité sont attendues mi-septembre et ça se passera cette fois à l'Élysée.
Les Jeux paralympiques de Tokyo et la France qui poursuit sa course aux médailles. 5 nouvelles médailles ce matin, de l'or, de l'argent et du bronze. On retrouve en direct de Tokyo Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric.
Cela fait donc au total 9 médailles pour l'instant pour la France.
C'est vrai qu'on s'y perd. Hein. Ouais, la récolte a commencé sur la piste du vélodrome du Fuji Speedway d'Izu. Alexandre Léauté, 20 ans, déjà double médaillé. L'or hier dans la poursuite, l'argent ce matin dans le kilomètre. Son camarade de chambre et ami du club de Urt au Pays Basque, Dorian Foulon est champion paralympique de la poursuite individuelle sur 4000 mètres. Ça fait 2. Ensuite, on a eu la médaille d'argent de Sandrine Martinet en judo, la porte-drapeau. Très triste, très déçue de perdre en finale. C'est quand même sa 5e médaille en 5 paralympiades depuis Athènes. Ça fait 3. Une première médaille aussi en athlétisme, le sport roi de l'athlétie de l'olympisme et du paralympisme aussi qui commence aujourd'hui avec du bronze pour Mandy François-Eli. 3e du 200 mètres derrière 2 Chinois. Ça fait 4. Et puis enfin, le bronze avec Alex Portal tout à l'heure à l'Aquatic Center en natation. Il disputait le 400 mètres nage libre. Ça fait 5. La France est 12e au classement des médailles avec 9 médailles entre la Biélorussie et la Colombie. La Chine est en tête avec 43 médailles, 18 en or devant la Grande-Bretagne et le comité olympique russe.
Guillaume Batin, en direct de Tokyo, merci à vous. Et on termine avec l'une des voix les plus singulières et les plus novatrices de la littérature américaine, Carmen Maria Machado, 35 ans, déjà autrice d'un recueil de nouvelles traduites en français. Carmen Maria Machado publie pour cette rentrée littéraire un récit profondément original à travers un roman autobiographique, Dans la maison rêvée. Ce livre aborde un sujet peu traité en littérature, l'emprise et la violence dans un couple de femmes, Ilana Marius.
Au début, Carmen Maria Machado est désemparée. Où trouver les textes qui rendent compte de ce qu'elle a vécu? Une histoire d'amour avec une femme, peu à peu rendue invivable. Clément Ribes, l'éditeur français de Carmen Maria Machado.
Il est arrivé une histoire de violence conjugale avec son ancienne compagne. Elle part du principe que, étant homosexuelle, étant lesbienne, elle ne pouvait pas connaître ce genre de situation. Or, elle découvre, c'est vraiment cette expérience fondamentale, elle découvre qu'en fait, les couples sont tous pareils, que ce soit un couple homme-femme, femme-femme ou homme-homme. Tous les couples sont menacés par la question de la violence.
C'est là que son incroyable talent intervient. Au fil de courts chapitres, elle interprète son histoire au prisme de toute sa culture, celle des classiques et celle des séries, des dessins animés, des films populaires. Dans La maison rêvée à la manière d'un thriller, Dans la maison rêvée à la manière d'une romance, à la manière de Star Trek, etc., etc.
À chaque chapitre, elle emprunte à un genre littéraire différent. Ça lui permet de prendre son matériau vécu et de lui administrer des traitements très divers pour faire apparaître la vérité. À chaque fois qu'on tourne une page, on ne sait jamais sur quoi on va tomber comme genre littéraire. On n'est plus vraiment dans le récit, on n'est pas complètement dans le roman, on est ailleurs. Et je pense que c'est une forme qui a un sens politique, en l'occurrence. Elle pose la question de comment raconter ces choses qu'on n'a jamais racontées auparavant.
À la fin du livre, Carmen Maria Machado a enfin le récit dont elle avait besoin. C'est celui qu'elle a écrit.
Carmen Maria Machado, son livre « Dans la maison rêvée » édité chez Christian Bourgois. Le temps pour cet après-midi.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps classique, une météo classique, hein, nuages au nord, soleil au sud.
Oui, et en effet, de la Méditerranée vers le sud des Alpes jusqu'au sud-ouest, mais on remonte quand même hein, vers le sud de la Bretagne également. C'est du soleil pour aujourd'hui. Alors, quelques nuages élevés sur le sud-ouest, mais ça ne gâche vraiment rien, on a l'impression de beau temps. On a une petite averse possible sur le sud des Alpes. En Méditerranée, toujours du vent, jusqu'à 50 à 80 km à l'heure. Et puis plus au nord, en effet, un ciel plus variable entre soleil et nuages. Un peu plus de nuages peut-être entre les frontières du nord, l'île de France et l'Alsace, avec parfois une petite averse. Des températures un peu juste au nord, mais plus estivales au sud. 18 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, Brest, Metz et Besançon, 22 degrés à Paris, 23 à Tours, Limoges ou Lyon, encore 28 degrés du côté de Toulouse, de Marseille, 30 à Bastia et 33 à Perpignan. Et puis pour le week-end, on aura encore des nuages sur le nord, sur le nord-est, quelques averses, un petit risque d'averse également pour l'extrême sud-est demain, mais toujours du soleil au sud et près de l'océan.
Élodie Calac de Météo France, merci.